Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Un clap cinéma qui revient en arrière, qui revient sur le festival Une salle sous les étoiles, qui s'est tenu du 5 au 12 juillet à la Fac Vauban. Nous faisions chaque jour un plateau en direct, les deux premiers jours, avec les parrains de cette édition, Michel Azanavicius et Bérénice Béjot. Je vous propose d'écouter un condensé de ce plateau avec eux.
Comment vous vous sentez d'être ici, à Nîmes, dans les douves du Fort Vauban, pour un festival?
Ben très bien, le lieu est... Au départ, on m'a dit que c'était une ancienne prison, donc on est un peu... On se dit, bah, tiens, c'est quand même étrange. Et en fait, c'est vraiment très très beau. Enfin, ça a été rénové par un architecte italien. Non, pas du tout, c'est la première fois que je viens. Et il n'y a pas de raison, j'ai pas été à la fac à Nîmes.
Moi, je connaissais du temps de la prison, mais.
Ah, bah ouais. Voilà.
C'est quelle cellule déjà, Michel?
Moi, j'ai passé quelques temps ici. Ouais. J'ai passé 6 ans. Ouais.
Et puis, c'était un grand lieu de tatouage. Il y a eu tout un lieu de tatouage.
Vous êtes Michel, t'as un tatouage? Montre ton tatouage.
à la radio, on peut tous faire.
Hein, vas-y.
Donc, merci à vous deux. Donc, vous venez, vous êtes à l'honneur, puisqu'il y a de très nombreux films qui sont proposés. Alors, il y a ce soir The Artist, qui a peut-être fait la grande visibilité de vous, Michel, mais vous avez fait plein de choses avant. The Artist, c'est un grand souvenir. Vous avez dit tout à l'heure, oui, bon, enfin, j'y pense pas tous les jours, mais c'est tout de même magnifique, The Artist.
Oui, oui, mais c'est les deux. J'y pense, c'est magnifique, mais j'y pense pas tous les jours, en effet. Non, oui. D'ailleurs, c'est parce que vous me posiez la question que j'y répondais, mais c'est vrai que c'est un film, en tous les cas, à l'international, qui m'a permis de sortir un tout petit peu du réalisateur pour les Français.
Voilà.
Et donc, mais avant, j'avais fait OSS, qui avait quand même bien marché en France.
Oui. Et Bérénice, The Artist, vous êtes une actrice muette, parlante. Vous êtes la nouvelle génération face à un Jean Dujardin complètement dépassé. Quel souvenir vous avez du tournage?
La nouvelle génération par rapport à Jean Dujardin, je n'ai pas compris là.
Non, dans le film.
Ah oui, je ne comprenais pas.
On a du mal à se mettre en route, hein, désolée.
C'est pas grave, ça va très bien se passer. Donc c'était quoi la question?
C'était, vous êtes dans le film The Artist, oui. Vous représentiez l'avenir face à un Jean Dujardin complètement dépassé.
Tout à fait.
Et vous en avez quel souvenir de ce tournage?
Ben, ça a été un tournage magnifique. On a tourné aux États-Unis. On faisait un petit film. Hein. Nous, on pensait pas que le film allait comme ça faire le tour du monde. Donc voilà, c'était un tournage très original. Je ne suis pas muette dans le film. Je parle. J'ai l'impression de repartir en promo sur The Artist. Est-ce que tout le monde me demandait ça? Et alors, ça fait quoi de ne pas parler? Et ben, et alors, ça fait quoi de vous rendre compte que je parle dans le film, mais que je n'ai pas de micro?
Question originale.
Non, mais donc je parle dans le film, mais effectivement, le son n'est pas enregistré, mais il y avait des dialogues. Parfois, on disait n'importe quoi, mais généralement, Michel avait écrit des dialogues.
Ah bon?
Mais c'est vrai que c'était assez agréable parce qu'il mettait de la musique, donc on a pu tourner des scènes en musique. C'est un travail qui est un peu différent vu qu'on travaille pas sur sa voix, on travaille que sur son physique.
Il y a beaucoup de gestuels, oui, beaucoup de gestuels.
Il y a pas tellement de gestuels, c'est juste que la voix n'a pas d'importance. Mmh. Donc on est plus concentré sur ce qu'on dégage, donc on va un peu accentuer certains gestes pour que ce soit bien animé à l'image. Mais voilà, c'était quand même un tournage assez incroyable.
Ouais. Alors Coupé, c'est le film après confinement. Donc c'était une façon de sortir de ce long tunnel. Vous avez eu le Covid, vous?
Oui.
Et donc il fallait repartir d'un nouveau pas, d'un nouveau pied. Il fallait vivre, s'amuser.
Bah, comme tout le monde, ouais, bien sûr. Après, j'ai eu la chance de pouvoir écrire le film, qui est un remake d'un film japonais, donc l'écriture a été facilitée parce que le film repose sur, à mon avis, une très bonne idée qui n'est pas de moi. Et donc, du coup, c'est quand même plus simple de partir sur du matériel existant. Et du coup, donc, j'ai pu écrire ce film très rapidement. Et dès qu'on a pu sortir, on a été le tourner. Et ouais, c'est un tournage très joyeux, ouais, très. Oui. C'est un film joyeux qui s'est fait de dans des conditions très joyeuses.
Je voudrais bien parler de Coupé.
Ah ben bien sûr, mais vous avez le droit, Bérénice.
Bah, merci. Alors, je voulais refaire un tout petit peu de promo. Je profite que vous nous invitez là. Pour ceux qui ont entendu parler de Coupé, pour ceux qui ont eu ont eu peur d'y aller parce qu'il y a des zombies, il y a du sang. Ce n'est pas du tout un film d'horreur. C'est vrai que je tiens à le redire parce que c'est un film qui parle de cinéma. C'est un peu genre Halloween. Voilà, c'est des faux déguisements, c'est du faux sang. C'est un film qui est construit d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une première demi-heure qui est assez particulière. On est sur un film qui est plutôt mauvais. Alors, faut pas s'inquiéter. La première demi-heure est très bizarre. Elle est un peu mauvaise. On joue un peu mal. Et en fait, faut se dire que plus les préliminaires sont longs, mieux est le film par la suite. Et c'est vrai que à un moment donné, vous allez comprendre le twist que je ne vais pas vous révéler. Et ça devient de plus en plus drôle parce qu'en fait, on rentre dans les coulisses du cinéma. C'est un film qui parle de making of. Le film pourrait s'appeler making of. Donc surtout, n'ayez pas peur. Ceux qui ont peur des zombies,
la première demi-heure.
Ouais. Et ceux qui n'ont pas voulu y aller quand c'est sorti il y a quelques années parce que peut-être ils ont eu peur du genre. Ce n'est pas un film de genre. C'est un film qui parle de l'amour du cinéma, de tous ces gens qui travaillent derrière la caméra. Et souvent, les spectateurs qui aiment les making-of, qui aiment savoir comment ça se passe, eh ben, venez voir ce film. Ça raconte ça. Ça raconte ce milieu-là.
Abstrait l'histoire, non?
Ah, c'est génial! Ah, oui, des jeux! Ah, c'est un chef-d'œuvre! Fais des adieux, c'est la merde!
À la réplique!
Saloperie de zombie!
Oui!
Nique-toi! Nique-toi, c'est foutu la merde!
C'était dans le texte, ça?
Ouais? Enfin, c'est pas au mot près, mais. C'est l'idée.
Vite, allons à la voiture.
Putain, c'est nul, oh.
Bah, c'est pas. Bah, c'est de l'impro, quoi.
Pourriture zombie. Je vais tous vous ouvrir le cul!
Vous savez où on en est là? Parce que moi je suis un peu battu là. Je vous cache pas que. Je suis un peu dans les choux là.
Alors je vous avais dit, Michel, que c'était votre festival. Presque d'une façon un peu ironique ou humoristique, je ne sais pas. Mais le film de dimanche à 14h qui passe au sémaphore est justement une création, et c'est important, Jean-Sylvain, vous en avez parlé. Il y a des nouveaux films, on fait les sorties à Cannes, mais là on a une avant-première, puisque ça ne sortira qu'en octobre, je crois.
Novembre.
Novembre même. Qui est La plus précieuse des marchandises. C'est votre premier film d'animation.
Oui.
C'est un autre métier?
Techniquement, c'est un autre métier. La finalité reste la même. Enfin, réalisateur. Là, on parle de réalisateur de films avec acteurs, ou disons de films prise de vue réelle et réalisateur d'animation. Techniquement, c'est très différent, mais les objectifs restent les mêmes. C'est-à-dire, vous devez raconter une histoire et créer des émotions avec. Avec des plans, mais la manière de fabriquer les plans n'a un peu rien à voir, quoi. Donc voilà. Après, le film, j'ai commencé à le faire il y a quasiment, enfin, 5 ans et demi, bientôt 6 ans.
D'après un livre
d'après
que vous connaissiez.
Livre de Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle du même titre, c'est le même titre, La plus précieuse des marchandises. Et,
Comment vous aviez découvert ce livre?
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le film n'est pas une réponse.
D'accord.
Enfin, il n'a pas été pensé comme une réponse à un problème de société. Il n'a pas été pensé dans des termes d'actualité, etc. Il se trouve que depuis, il y a un peu, effectivement, comme vous vous dites, une explosion de l'antisémitisme, si vous voulez, c'est un peu un curseur. C'est un symptôme d'une violence plus large que celle-là. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que le film raconte l'histoire d'une petite fille qui est sauvée pendant la Deuxième Guerre mondiale par un couple de bûcherons polonais. Tout ça est raconté comme un conte très classique. Et elle est sauvée. Et le film parle justement des justes, des gens qui font des bons choix dans des situations infernales. Et donc, le film offre un peu un spectre de ce que l'homme est capable de pire et du meilleur dont il est capable également. Et donc, voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, même s'il n'a pas été conçu comme une réponse à quoi que ce soit, aujourd'hui, il prend un écho effectivement particulier. Encore une fois, pas tant sur l'histoire des juifs et de l'antisémitisme, etc. Faut pas le voir comme un truc, je dirais, ponctuel comme ça. Plus dans l'idée que dans n'importe quelle situation, n'importe qui peut faire un bon choix.
Oui, faire le bon choix.
Le choix de la dignité, le choix de l'humanité, et le choix, je vais employer un gros mot, mais le choix de l'amour. Et donc voilà, je suis très fier de porter cette voix, qui est la voix de Jean-Claude Grimbert d'abord, encore une fois. Et je suis très fier d'avoir fait un film qui donne un autre écho au livre de Jean-Claude Grimbert.
Alors ce film d'animation, il faut savoir dessiner, et le dessin fait partie de votre vie. On vous connaît comme réalisateur, mais je pense que vous dessinez depuis très longtemps. On ne s'improvise pas comme ça brusquement à dessiner.
Oui, alors vous pouvez le faire sans savoir dessiner, mais il se trouve que moi, effectivement, je dessine depuis que j'ai 10 ans. Je fais aussi un très bon ossobuco milanaise.
Bérénice, c'est vrai? Oui.
Prochain film de Michel, d'ailleurs. Le
ossobuco. Ah, d'accord.
Et il se trouve que je dessine depuis longtemps. Et ça fait 47 ans que je dessine, donc au bout d'un moment, forcément, vous avez quelques tics, quoi, quelques trucs.
Oui, mais le faire pour un film, c'est tout de même autre chose. Ça.
C'est autre chose, mais j'ai
plus
tenté
de rigueur,
le coup.
J'ai tenté
le coup. Mais après, j'étais très bien entouré aussi. Mmh. Hein. Et j'avais un très bon directeur artistique, Julien Grande. Et par ailleurs, je n'ai dessiné que les êtres humains, parce que je ne sais dessiner à peu près que ça. Donc tout ce qui est décor, lumière, etc., j'avais des gens très 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 talentueux avec moi.
Et comment vous une fois terminé ce film, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, personnellement?
Une grande fatigue. Non, je vous dis, c'est un film que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un film qui a beaucoup de vertus, je pense. C'est très différent de ce que j'ai. Enfin, je vais vous dire autre chose, c'est que je croyais que c'était très différent de ce que j'avais fait. Il y a un réalisateur, en l'occurrence Xavier Jans, avec qui Bernice vient de tourner, qui a regardé The Search juste après avoir vu La plus précieuse des marchandises.
Oui, c'est le film sur la Tchétchénie.
Sur la guerre de Tchétchénie, avec une femme et un enfant. Qui... Et en fait, il m'a dit, c'est fou comme les deux films sont l'écho l'un de l'autre.
Et puis, je vous rappelle la principale information de cette édition, la disparition subite de Georges Abitbol, qui depuis plus de 15 ans portait officiellement le titre de l'homme le plus classe du monde. L'Amérique vient de perdre un de ses plus prestigieux ambassadeurs.
Où vous en êtes avec la nécro de Georges Abitbol?
Vous bossez un peu?
On a pensé qu'on devrait expliquer ses dernières paroles.
Monde de merde. Vous avez raison. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est « monde de merde ». Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Vous faites une enquête sur Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde?
Oui, vous l'avez connu, vous.
Georges Abitbol, c'était loin d'être impérable. Jamais il se serait vanté comme je viens de le faire sur la cuisine. Humainement, il avait la classe.
À quoi vous pensez si je vous dis « monde de merde »?
Au revoir.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Célèbre, tu niques plein de gonzesses, et puis aussi tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Moi, jamais parlé comme ça, pichant le visage.
Je me suis fait casser la gueule par un mec, une brute. Il voulait que je parle, mais j'ai rien dit du tout. J'ai pas dit où en était l'enquête, malgré la douleur.
j'aimerais bien passer à l'acte sexuel.
La mort de Georges n'était pas accidentelle, il s'est fait assassiner.
Moi, vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît.
Oui, 9h01.
Ah, vous êtes pressible.
Oui, vous voulez niquer avec mon ami et moi.
J'ai peut-être qu'un bras, mais je suis pas manchot.
Naturellement.
J'ai jamais été homosexuel, et encore moins pédéraste.
Ça veut dire quoi, monde de merde?
Très bien, puisque vous ne voulez pas m'aider, allez vous faire enculer.
Attendez, les gars, je sais pas encore ce que veut dire monde de merde.
Alors sur Radio Alliance Plus, pour ce Clap Cinéma, vous venez d'écouter la bande-annonce de La Classe Américaine et nous retrouvons ses réalisateurs pour nous en parler.
D'abord, il y a un court-métrage qui s'appelle Derrick contre Superman, où là, effectivement, c'était une demande de Canal+, de faire des petits courts-métrages qui parlaient de la télé. Et en fait, avec Dominique Mézeret, on a fait ce petit court-métrage-là à base de séries télé. Et ça a extrêmement plu, bien marché et tout ça. Donc, on nous en a demandé un autre, puis un autre. Et le troisième, c'est celui-ci, c'est La Classe Américaine. C'est le point d'orgue de ma carrière.
La Chapelle Sixtine de Michel.
C'est la Chapelle voilà. Sixtine. Et nous allons peut-être parler de vos projets à tous les deux, Michel et Bérénice. Vous tournez en ce moment? Non, c'est les vacances, vous nous avez dit. Mais vous avez tourné il n'y a pas longtemps et vous...
Non, pas du tout. Je serai au théâtre à la rentrée.
Ouais.
Et voilà, je serai sur scène au théâtre, au studio Marigny à Paris. Mmh. Et je vais faire un seul en scène, mis en scène par Johanna Boyer. Et c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent », écrit par Maria Larrea. Voilà, c'est ce que je fais.
Vous avez fait beaucoup de théâtre ou ça fait longtemps que vous n'en avez plus fait? Comment
j'ai
vous...
fait une fois du théâtre professionnel.
Mmh.
J'ai fait une tournée d'ailleurs, province, et c'était tout ce que vous voulez, mis en scène par... Bernard Murat avec Stéphane De Groot.
Heureusement qu'il est là pour vous souffler.
Non mais là,
non, non, tu te rappelles bien. Hein.
Non mais c'est pas ça. C'est que je pensais pas parler de ça. Donc oui voilà. Donc c'est la deuxième fois que je joue au théâtre de manière professionnelle.
Et la question bon banale mais qui s'impose tout de même. Vous préférez le théâtre ou le cinéma ou ces deux expériences totalement différentes? C'est du spectacle vivant le théâtre. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs scènes qu'on peut retourner. Donc qu'est-ce que vous préférez?
Non, c'est deux expériences différentes. Je préfère pas l'une ou l'autre. Elles se combinent, elles sont complémentaires, elles m'apportent des choses différentes. Donc je pense pas que j'en préfère une plus que l'autre.
Et comment vous avez choisi ou on vous a choisi pour cette pièce de théâtre? Comment on...
Bah on m'a envoyé le projet, je l'ai lu et j'ai été intéressée.
C'est un seul en scène, donc voilà. Il faut tenir la durée, il faut vraiment incarner le personnage.
Mais même quand on est deux, hein, il faut tenir la durée et incarner le personnage.
Oui, mais divisé. Oui, c'est vrai. Décidément, je c'est un festival ce soir. Ouais.
C'est mon édition festival. Donc non, mais peut-être ce que vous voulez dire, c'est que je serai seule en
voilà,
scène.
C'est ça.
Voilà, c'est sûr.
Merci.
Comme le nom l'indique. Et donc effectivement, j'aurai tous les yeux que sur moi. Et un seul en scène, c'est que tout d'un coup, je vous raconte une histoire, je vous emmène avec moi et effectivement ça doit être, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, donc un exercice particulier, mais moi j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de choses que je connais pas pour m'amuser, pour continuer à voilà, explorer des choses, donc
tu joues plusieurs personnages dans
je joue plusieurs personnages, je joue d'ailleurs avec des accents, donc ça fait rire Michel parce que je suis très mauvaise en accent. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Maria Larrea et qui a un jour a fait un tarot et en faisant ce tarot, elle a appris qu'elle avait été adoptée. Donc elle part à la recherche de ses parents adoptifs et en partant à la recherche de ses parents adoptifs, elle découvre, elle creuse et elle apprend aussi sur ses parents adoptifs. Et ses parents adoptifs sont espagnols. Ils sont nés et ont vécu en Espagne sous Franco et en 79 ont décidé de migrer en France pour avoir une vie plus belle. Et le père adoptif est devenu gardien de la Michaudière, hein, c'est une histoire vraie, et la mère est devenue femme de ménage. Et Maria Larrea, la fille que j'interprète, a grandi dans le théâtre de la Michaudière. Et donc en fait je joue la fille, Maria Larrea, le père, la mère et d'autres petit personnage secondaire.
Donc là, c'est pour novembre, donc vous avez plusieurs mois. Vous
alors, c'est pour octobre, début octobre, mais je commence à répéter en septembre, voilà, donc, jusqu'à fin décembre.
Alors, vous la mettrez en scène
Pas du tout, c'est Joanna Boyer.
Non, mais je disais à Michel, pardon. Peut-être qu'il va en faire un film, non? Non.
De cette histoire-là?
Oui.
Eh ben, peut-être. comment savoir?
Comment vous viennent les idées? Vous avez eu l'idée il y a 5 ans en lisant le livre?
Ça dépend. Vraiment, c'est très mystérieux. C'est pas tellement les idées. Le problème, c'est pas tellement les idées, c'est le choix. Mmh. J'ai de moins en moins de films à faire, forcément. Mmh. Et le choix d'un film avec lequel vous allez vivre extrêmement très proche pendant 2 ans, 2 ans et demi, mais non seulement ça, mais en plus vous allez, toute votre vie va vous accompagner. Moi, les OSS, ils m'accompagnent encore aujourd'hui. La classe américaine, c'est des choix que j'ai fait il y a 30 ans et qui continuent de m'accompagner. Donc le problème, c'est pas tellement le problème des idées, je vous dis, c'est le problème du choix du film, de dire voilà, je pars sur celui-ci. Et comment ce choix il se fait? Il se fait aussi en fonction du contexte dans lequel vous vivez, de l'humeur dans laquelle vous êtes, du film duquel vous sortez, de ce que vous... J'imagine qu'un choix est pas le même quand vous perdez vos parents et quand vous venez de vous marier, quand vous venez d'avoir un enfant ou quand votre pays bascule dans l'extrémisme, voilà, par exemple.
Oui, justement, on parlait tout à l'heure de The Church, le film sur la Tchétchénie. Là, vous faites La plus précieuse des marchandises sur vous êtes bien, j'ai bien compris, c'est pas un film sur l'antisémitisme, mais c'est un film tout de même qui pose des problèmes. Est-ce que l'actualité peut vous inspirer?
Influencer, c'est forcément. Enfin, l'actualité, c'est pas l'actualité, c'est des mouvements. C'est plus les mouvements de plaques tectoniques, si vous voulez. C'est pas l'actualité, parce que le cinéma, il n'est pas. À la différence de la télé, il y a un temps de maturation et de fabrication qui est très long. Donc, faire un film sur l'actualité, pour moi, c'est un petit peu compliqué.
Oui, mais enfin, quand j'avais fait sur la Tchétchénie, c'était bien au lendemain tout de même des événements. Donc,
pardon, je veux pas vous. Ouais. Non, c'était 13 ans après la guerre. Donc, ouais. En revanche, là où je parle de plaque tectonique, c'est que je sentais, j'avais l'impression que le virage qu'était en train de prendre Monsieur Poutine était très dangereux pour nous, et que ce virage-là, tout a commencé en Tchétchénie. Et donc voilà, donc c'est pas de l'actualité, mais j'entends ce que vous voulez dire, c'est le bruit du monde, ce qui est un peu différent, mais oui.
Parce que l'an passé, vous étiez au Festival Itinérance à Alès, où 12 de vos films avaient été projetés. Et je me souviens, dans l'interview, vous aviez dit que c'était des films de... J'avais retenu 2 mots importants. C'était vraiment des films de potache. Vous aviez 25 ans. Hein, et que un peu plus tard, on ne peut plus faire les mêmes films qu'à 25 ans. Et puis, très intéressé par le détournement, toujours. Hein, détourné. Donc, quand je vous parle de vos projets, de ce que vous pensez faire... comment vous sentez-vous par rapport à vos débuts?
Vieux.
Il est toujours comme ça, voilà. Bérénice.
Et le prochain détournement, c'est quoi? C'est un avion, un cargo,
Non, mais quel... on va dire si, votre carrière,
Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 80. La France sortait, alors attention, c'est un scoop, sortait des années 70.
Bravo.
Et c'était une France qui était quand même encore dans les années 70, c'était une France qui était très figée, c'était la France de Giscard d'Estaing, le journal télévisé était visé par le ministère de l'Intérieur tous les soirs, il faut pas oublier ça. Ouais. Et donc à cette époque-là, l'ironie, l'irrévérence, la destruction des mythes et de comme l'humour un peu destructeur ou de comment corrosif, etc., me semble avait une pertinence. En tous les cas, je ne sais pas s'il avait une pertinence, mais à cette époque-là, j'étais séduit par ça et j'allais volontiers vers ça, puis j'avais l'état d'esprit pour le faire.
Il y avait les nuls à côté.
Bien
aussi.
Sûr, j'ai commencé à travailler avec les nuls.
Ouais.
Et plus
tiens,
ça
rôle
va,
dans l'essai de la peur d'ailleurs.
Ouais.
Et plus ça va, plus je me méfie un petit peu maintenant où c'est pas que j'ai un problème, mais l'ironie, je crois que l'humour que j'essaie de pratiquer est peut-être différent dans mes films. Et je crois que maintenant, ce qui est peut-être plus, transgressif ou c'est justement de trouver les choses qui rassemblent plus que les choses qui détruisent ou qui et c'est assez compliqué pour quelqu'un qui a commencé vraiment avec un certain modèle et qui et le monde fait que vous devez vous questionner enfin moi en tous les cas voilà donc
on ne peut que se questionner
c'est pour ça que ma réponse était bonne je me sens vieux voilà. Tout le problème, c'est celui-là, c'est le problème de la distance avec laquelle vous suggérez les choses. Et c'est vrai que l'animation impose beaucoup moins et permet beaucoup plus de suggérer. Et en fait, le spectateur fait une grande partie du travail, il le fait avec ses codes, avec sa morale, etc. Je ne sais pas si la jeunesse sera plus ou moins sensée. Moi, j'invite tout le monde... et peut-être en premier lieu les antisémites à venir voir le film, évidemment. Mais en tous les cas, la question se pose de comment on raconte cette histoire-là. Tout le monde a l'impression que ça suffit, on l'a déjà vu, on a vu tout, etc. Mais c'est pas vrai, en fait. Il y a plein de... Et de changer la forme et d'adopter une forme comme celle-ci, finalement, propose complètement un autre regard et une autre approche. Et en fait, ça permet de voir des choses qu'on n'a jamais vues, et voilà.
Non, on pourrait dire vraiment la curiosité, l'opportunité toujours de découvrir. Et je voudrais vous demander, pour conclure, pour vous, c'est quoi le cinéma ?
C'est mille choses. En fait, c'est ce que vous en faites, à vrai dire. Vous en faites. Pour certaines personnes, le cinéma, c'est rien. Non, mais ils ne voient, ça ne les intéresse pas. C'est pas quelque chose qui les accroche. Et pour d'autres personnes, le cinéma, c'est tout. Ils vivent à travers ça. Moi, c'est aussi un métier, mais c'est pas que ça. Je suis aussi spectateur. Vraiment, c'est à la carte.
Pour moi, le cinéma, je sais pas, c'est une ouverture aux autres. C'est un moyen de raconter des histoires. On a parfois peur de ce qu'on connaît pas. Le cinéma est une façon d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre et de s'ouvrir, en fait, et de s'émerveiller plutôt que d'avoir peur.
Eh bien, merci aux deux parrains du festival Une salle sous les étoiles Saturne. Nous avons beaucoup parlé aussi du film qui sortira en octobre, La plus précieuse des marchandises. Et nous terminons avec un extrait de ce film. Merci.